vu sa consommation universelle, où presque le sel a été l'objet de symboles. Et l'un des livres les plus significatifs de cette symbolique du sel, d'être le sel de la terre, par exemple, dit Jésus à ses apôtres, où si le sel perd son goût, avec quoi le salera-t-on ? La Bible, comme ça, enferme beaucoup d'expressions où le sel entre. Et par conséquent, c'est un des plus anciens symboles du sel.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Cet épisode est le deuxième de notre série d'été sur la mer. 4 épisodes pour vous faire prendre le large en long et en travers. Aujourd'hui, le sel. C'est un compagnon discret sur la table à manger ou près de la gazinière, tellement présent qu'on ne le voit même plus. Et pourtant, c'est sûrement lui le premier des condiments, celui qui assaisonne depuis la nuit des temps, celui qui relève un ingrédient en un claquement de doigts au moment de la cuisson comme à table, lorsqu'on veut rectifier à son goût un plat. Le sel. Le sel, on l'apprécie comme on s'en méfie. Limitez les produits salés ou le sel pour préserver votre santé, ou goûtez avant de saler, disent les recommandations. Mais le sel est aussi, au cours de notre histoire, un ingrédient qui a accompagné l'essor de l'humanité. Dans la mondialisation à table, le médecin gastro-entérologue et membre de l'Académie des gastronomes, Jean Vitaux, écrit « Le sel est un composé chimique, le chlorure de sodium, indispensable à la vie, qui doit être présent dans l'alimentation pour compenser les pertes insensibles quotidiennes. C'était aussi un des seuls moyens de conservation des aliments, avec le séchage au soleil et le fumage. Le salage permettait de conserver les poissons et la viande de porc durant toute l'année. Ce mode de conservation était connu dès l'Antiquité et reste toujours utilisé, qu'il s'agisse de la morue, des harengs ou des innombrables variétés de charcuterie. Dans cet épisode, nous allons revenir sur l'histoire du sel, de l'esclavage à la mondialisation. Car avant d'atterrir dans nos cuisines comme un bien de consommation courante, le sel est aussi l'histoire de travailleurs, de forçats travaillant dans les bagnes du sel. Le sel, c'est aussi la preuve de l'ingéniosité de l'humanité qui a su l'extraire. On trouve dans la nature deux sortes de sel, le sel marin et le sel de terre, qu'on appelle aussi sel gemme. Le sel marin s'obtient par évaporation de l'eau de mer, tandis que le sel de terre ou le sel gemme est extrait de mines de sel gemme ou obtenu par évaporation de saumure. Pour en savoir plus sur cette passionnante histoire, je me suis rendue à Lille chez Jean-Claude Hoquet. Jean-Claude Hoquet est un historien qui a travaillé toute sa vie sur le sel. À 86 ans, ce spécialiste du Moyen-Âge est aujourd'hui directeur de recherche émérite de l'Université de Lille, après avoir, entre autres, enseigné à la Sorbonne et à l'École des hautes études en sciences sociales et était directeur de recherche au CNRS. Pour commencer, j'ai demandé à celui qui a aussi été président de la Commission internationale d'histoire du sel à partir de quand on pouvait dater le début de l'histoire du sel.
L'humanité, nous ignorons quand elle rencontre le sel. À mon avis, elle le rencontre dès ce qu'on appelle, nous, en spécialiste, le néolithique, c'est-à-dire la fin de la préhistoire, lorsque les hommes utilisent la pierre polie, le néolithique. Et on n'a pas de preuves écrites, puisqu'on est dans la préhistoire, c'est-à-dire avant l'histoire, avant l'écriture, mais on a trouvé quelques briquetages. Alors, les briquetages, ce sont des vestiges de foyers en terre cuite, donc qui ont la couleur de la brique, d'où le nom de briquetage, et que l'on a analysé, et dans ces vestiges de piliers et de foyers, on a trouvé une forte teneur en sel. C'est-à-dire que la saumure, le sel liquide, imprégnait la brique et les récipients dans lesquels on cuisait la saumure pour obtenir le sel. Donc ceci serait de la fin du néolithique, ce qui pourrait correspondre à l'âge du bronze chez nous au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Mais la seule véritablement traces que l'on ait trouvées, c'est dans les murs de Jéricho où on a trouvé du cuir. Or, on obtient le cuir qu'avec des peaux de bêtes, de bétail, traitées, conservées grâce au sel.
Donc voilà autant d'indices de présence du sel au cours de l'histoire. Aujourd'hui, le sel est sur toutes les tables, il fait partie de toutes les cultures, presque toutes les cultures. C'est un produit abondant dans le monde, mais il est souvent caché, enfoui dans le sol ou en dissolution dans la mer. Comment on a fait en tant qu'humanité pour extraire cette denrée ?
L'extraction du sel pose de redoutables problèmes. Si on envisage le sel marin, le sel contenu dans l'eau de mer, et l'eau de mer en contient beaucoup, de l'ordre de 30 à 35 grammes par litre de liquide d'eau, selon la température de la mer, de la Méditerranée et l'océan Arctique n'ont pas la même température, eh bien, il faut des espaces assez plats et imperméables. Sinon, l'eau s'infiltre dans le sol et par conséquent, le sel est perdu. Le sel est en dissolution dans l'eau de mer. Donc, il faut séparer l'eau du sel qui est lui-même dissous. Et on y parvient par les marais salants. Alors, ces marais salants sont de lointaine origine. Rome, l'Empire romain, autour de la naissance du Christ, en possédait déjà plusieurs. Les Carthaginois, ennemis de Rome également, sur tout le pourtour méditerranéen, en Sicile, en Sardaigne, en Espagne, en Tunisie même. Et donc les marais salants, on pouvait les installer là où le sol était relativement plat et imperméable. Quant au sel gem, c'est-à-dire le sel contenu dans et caché dans la terre, eh bien, les problèmes étaient nombreux parce que on sait que les Celtes dont faisaient partie les Gaulois exploitaient des salines dans la montagne, mais ils remontaient et du sel et des rochers sur leurs épaules et par conséquent c'était un travail très pénible, à très faible productivité et dangereux. On a mis fin à cette disparité et à ces dangers en créant, et cela se fait dans les Alpes, notamment dans les Alpes autrichiennes, à Hallstatt et Hallein, des galeries dans la montagne et des puits par lesquels l'eau douce, l'eau de pluie ou de fonte des neiges pénétrait à l'intérieur de la montagne. Et là, cette eau douce dissolvait le sel, gem, et descendait dans les vallées par des conduites de mélèzes creusées à la façon des pipelines d'aujourd'hui. Et on faisait bouillir cette eau chargée de sel dans ce qu'on appelait des salines. Et ce procédé apparaît, je pense, au XIIe siècle après Jésus-Christ. Et il porte un nom tout à fait français de manipulation. La manipulation du sel gem dans les montagnes. Dans les plaines, le sel, et c'est en particulier vrai pour les plaines sédimentaires en Allemagne ou en Espagne, en France également, dans le reste de la France, en Lorraine, en Franche-Comté, le sel apparaît à la faveur de sources salées et qui donnent leur nom à la toponymie des rivières salées, des seilles, des rios salado, etc. On en trouve partout dans le monde. Et vous me dites que le sel est consommé quasi universellement, ce qui est vrai, mais il est assez mal réparti dans le monde et dans les régions de boucle de hercynienne, par exemple, c'est-à-dire d'âge primaire, qui forment des boucliers très durs, comme la Scandinavie, eh bien, on ne trouve pas de sel. Et il faut l'importer des rives de la Méditerranée, par exemple, ou de l'Atlantique français.
Ce travail d'extraction du sel, il implique encore aujourd'hui des travailleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de ces travailleurs qui ont participé à l'extraction du sel, de finalement l'esclavage, les forçats travaillant dans les bagnes du sel?
Le sel a été très longtemps une industrie de main-d'œuvre. Une industrie de main-d'œuvre, j'entends par là, qui utilisait un très grand nombre de travailleurs. Alors, on utilisait des travailleurs du sel, appelés sauniers en français, pour la production du sel marin ou gemme terrestre. Et on utilisait également beaucoup de travailleurs à transporter le sel. Parce que le sel présente un paradoxe. Il était produit essentiellement au bord de la mer, dans des marais salants, et il était consommé par l'ensemble des populations et du bétail à l'intérieur des terres. Et par conséquent, les grandes voies du sel, ce sont les fleuves. Le Rhône, la Loire, la Seine, le Rhin, etc., l'Oder, le Pô, ou les fleuves espagnols. Et il fallait remonter le sel vers l'amont, c'est-à-dire que les eaux du fleuve descendaient vers la mer et on remontait le sel de la mer vers l'intérieur, vers la montagne, etc. Et par conséquent, il fallait des troupes de chevaux, de bœufs et d'hommes pour les barques de sel qui remontaient contre le courant. Et c'est donc une industrie qui exigeait une très abondante main-d'œuvre et également un bétail, des chevaux, des bœufs, etc., très nombreux. Donc, c'est une industrie qui est grande consommatrice de travailleurs. Voilà pour le sel marin. Quant au sel gemme, on le connaît un peu plus... Enfin, moi, personnellement, je le connais un peu plus mal parce qu'il n'est pas méditerranéen. Il est très rare au bord de la mer Méditerranée. Mais chaque saline avait son rayon de vente. C'est-à-dire que tout autour, ben, les consommateurs utilisaient le sel produit dans la saline de sel gemme, aussi bien à Halle. Et vous voyez que j'insiste beaucoup sur ce toponyme Halle. C'est comme Hals, que l'on trouve également dans Thalassa, etc. Ça désigne la mer salée, et ça désigne le sel. H-A-2-L, hein, Hallein, Hallstatt, Halle, etc. C'est le lieu où l'on fait du sel.
Comment le sel est-il ensuite entré dans une économie mondialisée jusqu'à être aujourd'hui le produit de consommation courante que l'on connaît?
Alors, le sel, pour en dire un mot sur l'économie mondialisée, ce n'est pas seulement un aliment de consommation journalière, c'est aussi, ça a été longtemps, le seul moyen de conserver des aliments. Avant l'invention du froid électrique, mécanique, industriel, eh bien, on avait le sucre pour certains fruits, les confitures sont faites de sucre et de fruits, mais on avait surtout le sel. Et le sel, donc, instrument de conservation, était aussi utilisé à des fins industrielles. Pour ce qui est de la mondialisation, eh bien, il faut savoir que certains pays sont riches de sel, en particulier les pays tropicaux, ou à saison sèche, et d'autres pays sont démunis ou n'ont pas suffisamment de sel pour leur industrie et pour la consommation, par exemple le Japon. Et donc ces pays-là, les pays de l'extrême nord ou le Japon, sont des importateurs de sel. Et pour importer le sel, on fait appel donc aux pays riches de sel. Par exemple, pour le Japon, on fait appel à la Basse-Californie mexicaine ou à l'Australie. Et ces pays-là sont des pays chauds et secs. Ils ont d'immenses salins qui sont gérés comme on gère aujourd'hui, c'est-à-dire par ordinateur. On fait entrer l'eau de mer, on la fait évaporer, etc. On récolte le sel et tout cela est dicté à l'homme par l'ordinateur. Mais ce sont des pays, ce sont des salines qui produisent de l'ordre de 5 à 10 millions de tonnes aux États-Unis. les États-Unis sont une grande puissance salinière, comme pour le reste de l'industrie. Mais on trouve surtout des salines sur la côte est, alors que la côte ouest, qui est longée par un courant froid, la Californie par exemple, est dépourvue de sel. Mais pour aller de l'un à l'autre, ou bien on a le train, ou bien on fait le détour par le canal de Panama. Donc les échanges de sel sont fréquents dans le monde. Et je surprends toujours beaucoup mes auditeurs en disant que les principaux pays producteurs européens, ce sont des pays froids, à saison humide, comme l'Angleterre ou l'Allemagne. Mais l'un et l'autre exploitent beaucoup le sel gemme.
Et qu'en est-il de la route du sel ?
Les routes du sel sont partout. Mais pendant longtemps, les routes du sel ont été des routes fluviales, enfin, maritimes parce que la France, et notamment la France atlantique, de la Bretagne sud à la frontière pyrénéenne, ou à l'essor de la Gironde, étaient de très gros producteurs de sel. Et ce sel, dit de la baie, B-A-I-E, allait dans la mer Baltique. Il était transporté par des navires allant par les détroits danois jusqu'à Danzig, jusqu'à Riga, Tallinn, etc. Donc, dans les ports de l'est de la Baltique, qui, eux, étaient dépourvus de sel. Donc, voilà une première route du sel. Mais j'ai beaucoup travaillé sur Venise, et Venise faisait venir tout son sel de Chypre, d'Ibiza. Ibiza, c'est au sud des Baléares. C'est célèbre aujourd'hui parce que c'est un lieu de plaisir pour la Jet Society. De Libye, à la frontière tuniso-libyenne actuelle, à Ras El Makbas, de Sicile, Trapani, etc. De Sardaigne, autour de Cagliari, il y a toujours d'importantes salines. D'Alexandrie d'Égypte. Alexandrie d'Égypte est bâtie comme Venise sur un lido, donc de chaque côté il y a la lagune et la mer, comme Venise. Donc voilà des routes du sel. Mais l'important pendant longtemps, ça a été la voie fluviale.
Et au-delà de cette histoire économique, quelles sont les dimensions symboliques portées par le sel ? En tout cas, c'est un mot qu'on retrouve dans un certain nombre d'expressions de la vie quotidienne. Le sel de la vie, une note salée au restaurant.
Le sel a été l'objet de symboles. Et l'un des livres les plus significatifs de cette symbolique du sel, vous êtes le sel de la terre, par exemple, dit Jésus à ses apôtres, ou si le sel perd son goût, avec quoi le salera-t-on ? La Bible est comme ça. Enferme beaucoup d'expressions où le sel entre. Et par conséquent, c'est un des plus anciens symboles du sel. Mais le sel, il a à la fois bonne réputation, il donne de la saveur aux aliments, quels qu'ils soient. Moi, il m'arrive je sale le melon. Beaucoup de gens le sucrent, mais moi, je le sale. Et ça relève son goût encore. Donc, et alors, il a à la fois bonne réputation et mauvaise réputation. Par exemple, une fille pas sérieuse, on l'appelle une morue. Pourquoi une morue salée ? Parce que la morue est généralement salée. Elle était prise par les pêcheurs de Terre-Neuve, et qui embarquait d'ailleurs beaucoup de sel, et qui faisait le détour par des salines dont le sel était pur. Parce que si le sel contient de la terre, cette terre se dépose également sur le poisson et ça lui donne une couleur pas agréable du tout. Et alors que si le sel est pur, eh bien, il ne donne aucune autre couleur au poisson. Et il est largement consommé au Portugal ou en Italie, etc. Donc les pêcheurs de Terre-Neuve qui emportaient du sel pris au Portugal emportaient leur prise au Portugal. Donc il y avait un échange poisson-sel d'un sens puis de l'autre, ou dans les ports méditerranéens français, à Marseille, etc.
Et ce sera ma dernière question pour vous, Monsieur Hockey. Le sel, comme le lait, comme le sucre, est un ingrédient qui ne présente pas de caractéristiques physiques permettant très facilement de distinguer ces variétés. Aujourd'hui, vous, quel sel consommez-vous ? Est-ce que vous êtes amateur d'un sel en particulier, pour son goût, pour son histoire ?
Aujourd'hui, le sel se présente comme un produit blanc, plus ou moins cristallisé, c'est-à-dire plus ou moins gros ou menu. On distingue le sel fin, qui est une sorte de sel en poudre, et le sel, le gros sel, qui est un sel cristallisé, mais qu'au Moyen-Âge, on aurait appelé sel fin. Aujourd'hui, on l'appelle gros sel. Alors, le gros sel me sert surtout dans les bouillons, dans la cuisine, et le sel fin, à table, sur la salière. Alors, j'utilise dans la salière la fleur de sel. La fleur de sel de Guérande. Bon, j'ai d'excellents rapports avec les sauniers de Guérande, et les sauniers m'envoient du sel, de la fleur de sel. Alors, c'est un sel féminin, récolté par les femmes à Guérande. Elles passent un outil horizontalement à la surface du marais salant pour recueillir la fleur de sel qui n'est produite que lorsqu'il y a une brise légère qui pousse la fleur de sel vers les bords de ce qu'on appelle l'œillet, c'est-à-dire le cristallisoire, où l'on récolte le sel. Au Moyen-Âge, on distinguait du sel noir, du sel rouge, ou du sel rouge. Et les Milanais, par exemple, avaient l'habitude de consommer ce qu'ils appelaient du gros sel rouge d'Ibissa. Parce qu'à Ibissa, il y a un oxyde de fer qui remonte par les sources dans la saline et qui produit ce sel rouge. Et les Milanais ne voulaient entendre parler que de sel rouge d'Ibissa. Ils refusaient le sel blanc. Et lorsqu'il y a eu la bataille de Lépante en Grèce entre, disons, les chrétiens et les ottomans, les turcs, du sultan, eh bien, tous les bateaux chrétiens étaient mobilisés pour faire la guerre aux musulmans, et il était difficile d'importer du sel d'Ibissa. Alors le duc de Milan a dit à ses ouailles, à ses sujets, que les gens d'ailleurs étaient aussi intelligents que les Milanais et consommaient malgré tout du sel blanc. Alors les Milanais étaient priés d'utiliser aussi du sel blanc. Voilà. Quand ce sel noir, le sel n'est noir, non pas parce qu'il est issu des volcans, je pourrais en dire un mot aussi, mais parce qu'il contient beaucoup de terre, il est terreux. Et donc les sauniers, en raclant le plancher du cristallisoire, arrachent de la terre, et ce sel est terreux. Mais les Vénitiens disaient, mais ça n'a aucune importance, les éleveurs l'utilisent pour parsemer de sel terreux leur pâturage. Les pâturages où les bêtes, donc, paissaient, allaient paître durant c'est-à-dire les vaches, les moutons, etc., paissaient. Donc ce sel terreux pouvait être vendu comme tout autre sel, mais n'était pas consommé par les humains.
Comme Jean-Claude Hockey, je suis moi aussi une grande amatrice de fleurs de sel. La fleur de sel, c'est la délicate couche de cristaux blancs qui se forme à la surface des marais salants, soit un sel plus doux et plus riche en minéraux que les autres. C'est lui le véritable or blanc. Merci à Jean-Claude Hockey de m'avoir donné de son temps pour parler de sel. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et Mathilde Jonin. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Maillot.